Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAI l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. Le président argentin Alberto Fernández en visite en Espagne, Allemagne et France. Un procureur antidrogue paraguayen a été assassiné en Colombie. L'Argentine, la Bolivie et le Mexique demandent aux États-Unis de ne pas exclure certaines nations du sommet des Amériques. Le brise-glace de la marine argentine de retour à Buenos Aires après 4 mois en Antarctique. Une étudiante française a été renversée et tuée à Buenos Aires par un chauffeur de taxi, victime d'une attaque cérébrale. Le président argentin, Alberto Fernández, poursuit sa tournée en Europe pour promouvoir son pays en tant que fournisseur fiable de nourriture et d'énergie. Fernández effectue sa première étape à Madrid, où il a été reçu par le roi Philippe VI et par le premier ministre Pedro Sánchez, avec qui il a coïncidé à condamner l'invasion russe en Ukraine. Lors de sa présence dans la capitale espagnole, le président a reconnu qu'il avait l'intention de se représenter en 2023. Mercredi, il était à Berlin, où il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Le voyage officiel se termine vendredi, lorsqu'il rencontrera son homologue français Emmanuel Macron à Paris. En Europe, Fernández a écarté la possibilité que l'Argentine impose des sanctions économiques à la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine, car il considère que de telles mesures ont des répercussions négatives pour le monde entier et aussi pour l'Argentine. Un procureur paraguayen connu pour ses poursuites contre le crime organisé a été assassiné en Colombie alors qu'il était en voyage de noces. Marcelo Pesci a été abattu par deux hommes sur l'île de Huaru, dans les Caraïbes, où il s'était rendu avec sa femme enceinte. Selon l'épouse, les assaillants sont arrivés en jet ski et ont ouvert le feu sur son mari sans dire un mot. Pesci a travaillé sur des affaires impliquant des mafias, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Dans ce contexte, le président paraguayen, Mario Abdo Benítez, a condamné ce qu'il a appelé un meurtre lâche qui endeuille toute la nation. Et il a promis de redoubler notre engagement dans la lutte contre les mafias. En Colombie, les autorités disent avancer dans l'enquête sur le meurtre de Pesci. La procureure adjointe colombienne, Marta Mancera, a déclaré que l'enquête est sur la bonne voie, bien qu'aucun suspect n'ait encore été arrêté. La police colombienne, quant à elle, a admis que ce meurtre démontre l'existence d'un système de crime organisé transnational. L'Argentine, le Mexique, la Bolivie et le Honduras ont rejeté la décision de Washington d'exclure plusieurs pays du sommet des Amériques à Los Angeles. Si toutes les nations ne sont pas là, ce n'est pas le sommet des Amériques, a déclaré la présidente hondurienne Xiomara Castro. Pour sa part, son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a dit qu'il n'était pas content du sommet organisé par les États-Unis parce que tous les pays invités ne sont pas là. Se sont également exprimés dans le même sens le président argentin Alberto Fernández et le président bolivien Luis Arce, qui a déclaré que l'exclusion du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua était un manque de respect. Le sommet des Amériques se tiendra à Los Angeles du 6 au 10 juin. Le brise-glace de la marine argentine, Almirante Irizar, retourne au port de Buenos Aires après avoir terminé la campagne antarctique. Pendant près de 4 mois, il a transporté du personnel de remplacement et approvisionné les 13 bases argentines du continent blanc. Le navire a retardé son retour dans la capitale parce qu'il a participé la semaine dernière à un hommage aux morts et aux survivants du général Belgrano, 40 ans après son naufrage pendant la guerre des Malouines. Dans des déclarations à la presse, le capitaine du brise-glace, Carlos Musso Soler, a affirmé qu'il était possible de mener à bien même la phase la plus complexe, qui consistait à atteindre la base la plus éloignée, la Belgrano 2, accessible uniquement par hélicoptère. Une étudiante française est décédée à Buenos Aires après avoir été écrasée par un taxi dont le chauffeur de 74 ans a perdu connaissance et le contrôle de sa voiture après avoir subi une attaque cérébrale. La jeune femme de 25 ans, Luana Bichet, se trouvait dans la capitale argentine dans le cadre d'un programme d'échange. Deux de ses camarades d'études de même nationalité ont également été blessés dans le quartier de Palerme samedi dernier. Les deux femmes, Anne-Lise Dumas et Clémence Rameux, ont été hospitalisées mais se rétablissent. un tribunal de la capitale a lancé une enquête pour déterminer si le conducteur était apte à conduire un véhicule ou s'il a ignoré des signaux précédents concernant la détérioration de sa santé. L'affaire a relancé le débat sur les contrôles des automobilistes âgés. Danseur de tango dans les rues, quartier opulent, bar des lignes, Buenos Aires est toujours l'une des capitales les plus dynamiques d'Amérique latine. C'est ce que transmet le réalisateur français Thierry Gaétan dans son reportage « Buenos Aires, le miracle argentin, entre rêve et cauchemar ».
Le tango, tout un symbole en Argentine. Cette danse est née à la fin du 19e siècle, à Buenos Aires. Tombée en désuétude dans les années 30, le tango est redevenu à la mode, il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on le danse jour et nuit, à tous les coins de la ville. Mariana et Maxime, eux, ont leurs habitudes dans le parc San Martín, l'équivalent du Jardin des Tuileries à Paris. Chaque jour, elle retrouve Maxime, son voisin et partenaire de danse. Les toilettes d'un fast-food pour se changer, et les voilà transformés en danseurs de tango traditionnels. Comme de nombreux Argentins, ils dansent le tango en plein air, une attraction appréciée des touristes et qui rapporte. Après trois danses, Maxime fait la quête.
T'as bien travaillé, ma grande. Je te félicite.
Oui, c'est pas mal pour aujourd'hui. Tout ce que je gagne en dansant, c'est pour le partager avec ma famille. Pour acheter de la nourriture et tout.
Buenos Aires, capitale de l'Argentine, 13 millions d'habitants, à elle seule, elle concentre près d'un tiers de la population du pays. Une ville au sud de l'Amérique latine avec une particularité, 80% des Argentins sont d'origine européenne. Jusque dans les années 50, Buenos Aires est une capitale qui rayonne. L'Argentine est alors considérée comme l'un des pays les plus riches du monde. Mais dans les années 70, la situation du pays se dégrade. Les militaires prennent le pouvoir. C'est le début de la terreur. 30 000 personnes sont portées disparues, parmi lesquelles 18 Français. Éric Demergue a perdu son frère Yves, enlevé à l'âge de 22 ans. Depuis, Éric cherche à connaître la vérité.
Et pour brouiller les pistes, pour qu'on les retrouve jamais, ils sont venus les balancer ici, en pleine nature. Et pourtant, on les a retrouvés. On a mis 34 ans, mais on les a retrouvés.
En Argentine, le football est presque une religion. Nous avons suivi Banderita, une figure emblématique du club de Buenos Aires. Il ne vit que pour Boca Juniors et Maradona. Loin de la capitale, les grands espaces, des terres riches, idéales pour le soja et le fameux bœuf argentin. Hubert Gosse rêvait d'aventure et de succès. Aujourd'hui, immobilier ou élevage, tout réussit à cet homme d'affaires belge.
Je suis reconnaissant à la faculté de droit où j'ai quand même passé 5 ans ou 6 ans de m'avoir ouvert les yeux sur ce que je ne voulais pas faire et ce que je voulais faire.
À Buenos Aires, un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté et dans la capitale, on dénombre 14 bidonvilles. Ici, pour survivre, tous les moyens sont bons.
Ouais, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. On a toujours cette arme aussi dans nos poches.
La criminalité, les habitants de Buenos Aires ont dû apprendre à vivre avec. La police doit faire face à la violence, mais aussi à la corruption présente partout. Exceptionnellement, nous avons pu suivre une opération coup de poing des forces de l'ordre contre une organisation criminelle. Entre passion et violence, espoir et pauvreté, plongé dans les coulisses du rêve argentin. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres, QG de la police fédérale de Buenos Aires.
Il est midi passé de 23 minutes. La température ici à Buenos Aires est d'un peu plus de 12 degrés.
12 grados 4 décimas.
Nous sommes dans un studio de radio. C'est celui de la police qui possède sa propre fréquence. Une station presque comme les autres, avec des flashs d'informations, de la musique, la météo. Sauf qu'ici, tout au long de la journée, les animateurs donnent des conseils de sécurité aux auditeurs pour ne pas se faire agresser.
Si vous devez prendre un taxi, la police fédérale vous conseille de vérifier que le véhicule est un vrai taxi. Vérifiez que la fiche d'information du chauffeur et son numéro de licence sont bien en évidence.
À quelques mètres du studio, la salle de télésurveillance de la ville. Des caméras contrôlent les zones sensibles, comme le métro par exemple.
La suite de nos conseils. Avant d'utiliser un distributeur de billets, ne vous fiez surtout pas à une tierce personne qui voudrait vous aider. Et si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, appelez la police en composant le 911. Il est midi 41, la température est de 14 degrés.
Impensable en France, à Buenos Aires, cette station de radio ne choque personne. La violence fait partie ici du quotidien. Marcelo est policier dans cette ville depuis 18 ans.
C'est dangereux ici, même si ça dépend de l'endroit où vous vivez et où vous travaillez. Certaines parties de la ville sont plus tranquilles que d'autres. Mais Buenos Aires est une ville dangereuse.
8 heures du matin, comme tous les jours, il se rend à son commissariat.
Bonjour.
Bon, c'est parti pour la journée. Alors, comme d'habitude, on va essayer de rentrer sain et sauf à la maison pour retrouver nos familles. Allez, bonne journée à tous.
Cette journée s'annonce apparemment calme. Pourtant, la peur de ne pas revenir de mission est présente dans tous les esprits de ces policiers. Avant que les équipes ne se séparent, il faut boire le maté, une infusion à base d'herbes. Le récipient change de main, une tradition de convivialité héritée des Indiens.
C'est notre rituel avant de commencer le service. On boit notre maté ensemble pour se raconter les potins de la brigade. J'ai pas de photo de ma fille sur moi, mais j'ai ce portefeuille Winnie l'ourson qu'elle m'a offert. C'est celui-ci. Et donc maintenant, je dois porter mes documents officiels avec l'image de Winnie l'ourson. Quand mon chef l'a vu, il a levé les yeux au ciel, mais il a ri.
C'est important de porter un gilet pare-balles ?
Oui, c'est très important dans notre métier, parce que c'est dangereux, vous ne croyez pas ?
Ce que redoutent le plus les policiers, ce sont les interventions dans les Villages. C'est le nom que l'on donne ici aux 14 bidonvilles que compte la capitale. Plus de 150 000 personnes vivraient entassées dans ces abris de fortune. Marcel connaît bien les Villages, en particulier la Villa 31, le plus grand bidonville de Buenos Aires, le plus violent aussi.
C'est terrible ce qui se passe à la Villa 31. Là-bas, il y a même des enfants qui se détruisent avec plusieurs types de drogues. Et il y a aussi vraiment beaucoup de vols à la Villa. Mais à côté de ça, il y a des gens honnêtes qui travaillent. Et eux, on est quelquefois obligé de les raccompagner chez eux. Sinon, ils se font dépouiller et même agresser par les trafiquants.
La Villa 31, c'est ce bidonville. Des maisons inachevées faites de tôles et de parpaings, de la boue, des constructions branlantes par centaines. Un véritable labyrinthe où vivent plus de 40 000 personnes. Un repère pour les criminels et trafiquants en tout genre. Ici, personne ne pénètre, pas même la police. Trop dangereux. Exceptionnellement, nous avons pu rentrer avec une caméra. Nous avons rendez-vous avec l'un de ces délinquants que redoute tant la police. Il s'appelle Mathias. Seule condition, l'entretien doit être rapide et discret. Mathias vit dans un baraquement de fortune avec Manuel. Face à nous, deux jeunes garçons d'une vingtaine d'années, visiblement sous l'emprise de la drogue, et fiers d'exhiber leur collection d'armes à feu, leurs outils de travail.
Tu l'as déjà utilisé ?
Oui, je m'en sers souvent, tout le temps même. Faut toujours l'avoir sous la main parce qu'ici c'est chaud et on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Ouais, c'est vrai, on n'est jamais trop prudent. Et on a toujours cette arme aussi dans nos poches.
Ça t'a déjà servi ?
Ouais, je m'en suis déjà servi à deux reprises lors d'un échange de tirs. Mais je ne sais pas si j'ai touché la personne.
Moi, je suis un vrai enfoiré.
C'est quoi le pire que tu as déjà fait ?
Rien. Enfin, j'ai fait tout ce que font les autres mecs. Je vais pas te mentir, il faut survivre. Il faut bien rapporter du pain à la maison.
Tu as déjà tué ?
Non.
Près d'une centaine de milliers d'armes seraient ainsi possédées illégalement à Buenos Aires.
Et les flics, ils viennent ici ?
Non, pas ici. Sinon, il y aurait des embrouilles.
Direction le quartier de San Isidro. Hubert Gosse vit dans cette luxueuse maison avec sa femme et ses deux enfants. Hubert est belge. Il est installé ici depuis 15 ans. Son métier, faire du business dans l'immobilier haut de gamme. Chaque matin, c'est en moto qu'il se rend à son bureau dans un quartier moderne, en périphérie de la ville.
Ici, on a le quatrième étage des vieux docks rénovés de Porto Madero, sur l'eau.
Hubert Gosse a trouvé son créneau, allié hôtellerie de luxe et activités sportives, dans la Pampa. Homme d'affaires et aventurier dans l'âme, il investit dans toutes ses passions. Départ pour les plaines de Gualeguaychú.
On y va, Willy ?
À 500 km au nord de Buenos Aires, dans l'avion privé de l'homme d'affaires. Pratique dans un pays grand comme 5 fois la France. En plus de ses investissements dans l'immobilier, Hubert Gosse est aussi lancé dans l'élevage du fameux bœuf argentin. Sa propriété est située dans la province d'Entre Ríos, une des régions les plus prospères. Hubert y possède 7000 hectares, l'équivalent de Paris intramuros, le long du Paraná, un fleuve immense qui prend sa source au Brésil. Piste d'atterrissage privée dans la propriété d'Hubert. Et nous voici arrivés sur ces terres.
Hola, buen día.
Bonjour. Comment ça va ?
Comment va, Marcelo ? Tout bien ?
Tenez un peu d'eau.
On va voir si on trouve notre bétail.
Vous avez appris à monter à cheval ici, en Argentine ?
Non, je montais déjà à cheval, mais alors l'équitation anglaise européenne. Donc ici, on monte à une main. Donc c'est gauche, droite,
gauche,
avant,
droite.
Arrière, avec une, seule, avec une main.
Et puis alors, on a des couvertures et
des
peaux de mouton.
Des peaux de mouton.
Pour soigner l'arrière-train.
Bah exactement, parce qu'on passe tellement d'heures à cheval qu'il faut être confortable.
Pour parcourir ces terres immenses, on utilise le cheval des criollos, une race habituée au bétail.
Ah, tu peux le lâcher, ils vont aller tout seuls.
Lágalo.
Jamais Hubert n'aurait imaginé gagner des fortunes en sillonnant la Pampa à cheval. Hubert possède 2500 têtes de bétail. Ces animaux sont élevés au grand air, sans pesticides et nourris uniquement de l'herbe des plaines. Un bétail bio qui produit l'une des meilleures viandes au monde, l'une des plus chères aussi. Pour veiller sur ses bêtes, Hubert emploie 8 gauchos, des gardiens de troupeaux. Ils sont arrivés dans le pays avec les Espagnols au XVIe siècle. Les gauchos et leur mode de vie font partie intégrante de la culture argentine. Jorge est le gérant de l'exploitation. Il déplore que les consommateurs argentins aient du mal aujourd'hui à s'offrir cette viande haut de gamme.
Maintenant, une vache argentine vaut un lingot d'or. Mais il y a quelques années, enfin pas si longtemps que cela, il y a 5 ans environ, elle valait une paire de chaussures.
Pourquoi dites-vous cela ?
Parce que ça ne valait rien. Parce que le gouvernement menait une très mauvaise politique d'élevage. Il le détruisait.
Depuis des décennies, la viande argentine faisait la richesse du pays. La majeure partie de la production s'exportait dans le monde entier. Mais en 2008, le gouvernement a décidé de taxer les exportations jusqu'à 40%. Un impôt insurmontable pour les éleveurs qui ont arrêté de produire de la viande pour faire du soja. Du coup, le prix de la viande est monté en flèche. Aujourd'hui, la viande argentine est devenue un produit de luxe. Et la produire, un business rentable pour ceux qui, comme Hubert, ont tenu bon. Preuve de cette réussite, cette très belle hacienda au milieu de la Pampa. Accessible en avion, avec son clubhouse, sa piscine et ses employés de maison. Ils l'entretiennent toute l'année, alors qu'Hubert n'y séjourne que 3 semaines par an. Il est midi, Hubert a de la visite.
Bonjour.
Ce sont des banquiers de la région.
Qu'est-ce que vous voulez boire ? Une petite bière ?
Non, de l'eau, de l'eau.
Et c'est autour d'un asado, le barbecue typique en Argentine, qu'ils vont parler affaires. Le succès du Belge ne leur a pas échappé. Ils sont venus lui faire une offre, lui prêter de l'argent pour qu'il puisse agrandir son élevage.
Mais Hubert, quel est l'objectif de ce déjeuner ?
Parler avec la banque d'Entre Ríos, qui est la province où nous sommes. Eux nous ont approchés, très curieusement, pour nous proposer un crédit pour profiter de la nouvelle situation économique de la viande en Argentine, qui a augmenté de prix. Alors ici, on a un potentiel de production qui n'est pas exploité à 100%. Et donc l'idée, c'est que la banque nous fasse un crédit pour pouvoir augmenter la masse critique et augmenter la production de viande.
Et pourquoi le marché de la viande a changé ? C'est mieux maintenant ?
Eh bien, il n'y a pas assez de production pour répondre à la demande de viande. Et cette demande va aller en augmentant.
Ah oui, il y avait du bétail, maintenant il y a du soja. Et du coup, il y a moins de bétail dans un pays énormément consommateur de viande, donc le prix, plus l'exportation.
C'est la fin d'un repas réussi, de la bonne viande et une affaire apparemment conclue qui permettra à Hubert de doubler son cheptel.
Ils en sont tout à fait contents, ils disent qu'on va pouvoir définir le crédit avant la fin de l'année, donc c'est rapide. On parle d'un montant de 2 millions, 2,5 millions, quelque chose comme ça. Donc, dollars.
Retour à Buenos Aires. Dans les rues, impossible de se promener sans tomber sur des fans de Maradona ou des affiches à son effigie. En Argentine, le football est aussi important que la religion. Et Maradona est une icône.
Diego Maradona, c'est le numéro 1 en Argentine.
En 1979, à peine majeur, il est capitaine de l'équipe junior, alors championne du monde de football. Cette même année, il remporte le Ballon d'Or argentin. Et pendant plus de 10 ans, il sera le joueur le plus brillant de sa génération. En 1986, l'Argentine remporte la Coupe du Monde. La carrière de Maradona est à son apogée. On le surnomme alors « la main de Dieu ».
Pour moi, Maradona, c'est la revanche du pauvre. Tout le monde est obligé de le respecter, mais lui, par contre, il peut maltraiter qui il veut, comme font les riches. C'est un pauvre qui a bien tourné.
Nous sommes dans le centre de Buenos Aires, au stade de River Plate, un endroit magique qui fait rêver les amateurs de football du monde entier. Ici, chaque week-end, des milliers de fans se pressent à l'entrée du stade. Aujourd'hui, ce sont les deux équipes mythiques du pays qui vont s'affronter. Comparable en France à une rencontre PSG-OM, le dispositif de sécurité mis en place est impressionnant. En rouge et blanc, les fans de River Plate, en bleu, ceux de Boca Juniors. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres du stade, Banderita, de son vrai nom Oscar Laudonio, se prépare. Depuis plus de 60 ans, cet ancien boxeur et professeur de gymnastique soutient avec ferveur l'équipe de Boca Juniors, celle dans laquelle jouait Maradona. Celle aussi qui a remporté le plus de titres internationaux au monde. C'est chez lui une vraie passion, presque une obsession. Banderita est connu dans tout le quartier. et ses copains ne manquent jamais une occasion de le chahuter.
Hé hey Palermo, hé hey Boca, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui?
Il parle, champion du monde. 18 coupes internationales, mon pote.
Il va faire quoi, le Boca? Tu vas faire comme ça, mais non, mais non.
Regarde ça, regarde ça. Nous, on est les meilleurs.
Encore deux pénaltys et c'est plié.
Allez, il s'en va, le champion, il s'en va.
Arrivé au stade, les portes sont encore fermées. L'ambiance s'échauffe. Les supporters sont tendus. C'est à celui qui fera le plus de bruit. La police surveille. Filmer les coulisses de Boca Juniors n'est pas donné à tout le monde. Le lieu ressemble à une chapelle, un sanctuaire. Les footballeurs sont des demi-dieux et leurs casiers sont des autels sous la protection de la Vierge. Les 76 000 places du stade sont occupées. On joue à guichet fermé. Cette rencontre qui compte pour le championnat d'Argentine est importante, car les deux équipes sont rivales depuis des décennies. Boca Juniors est battu 1 à 0 par River Plate.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.